Bonjour, les papous en piste pour la récré de France Culture. Elle affiche quelques énigmes. Elle est très pâle, elle nous raconte sa vie. Ou bien, il est perdu, elle est fille. Et c'est Jean-Bernard Pouy et Lucas Fournier qui nous en parlent. Ou encore, tout en sucre, les douceurs dont Jacques Vallée ne veut pas, mais que Violaine Schwartz défend. Et puis, un nouvel épisode de notre feuilleton. Madeleine, pourquoi tu déménages ?
Voilà ce que nous allons faire, Charles. Nous allons louer une fermette aux Miellettes.
Oh.
Une fermette coquette. Les Miellettes, c'est un hameau perdu de la commune d'Aigurande sur Bouzanne. Les déménageurs bretons seront là demain matin à la première heure. J'ai repris les mêmes.
Ensuite, les faussaires Odile Conseil, Jacques Jouet, Patrice Delbourg, soumis au verdict des experts Gérard Mordillat, Patrick Beignet, à propos d'une œuvre de Jules Renard. Patrick.
Je trouve également que Dumas fils est un très bon choix,
oui.
qui pour nous est un peu inattendu.
Oui, c'est pas forcément...
Ou alors c'est quelqu'un très cultivé, mais je vois pas qui l'a choisi. Ou bien c'est Jules Renard. Et je trouve que ce n'était sa calvitie, c'est pas un début de roman comme je les aime. Disons.
Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Et une émission à podcaster sur franceculture.fr. Et rendez-vous pour échanger sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. Et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois un numéro des papous sous le signe de l'écriture, du style et de la contrainte. On dit souvent que la contrainte libère l'imagination. C'est ce que pensait Georges Perec. C'est ce que pensent les écrivains de la bande des papous dans la tête. La création littéraire n'en reste pas moins délicate. Démonstration avec Hervé Le Tellier qui se prend pour une chose. Vous êtes, Hervé ?
Je suis une feuille blanche.
Ah ouais.
Je suis précisément la numéro 143 de la ramette A4 posée sous le bureau d'Hervé Le Tellier.
Ah, oh. Oh, c'est une chance.
Ouais.
Elle a de la veine.
Un grand auteur.
Oui,
tu le connais.
J'ai été saisi avec la 142 et 144 et je suis sur un bureau. J'attends, je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Là, je dois dire que je suis verni. Enfin, je ne suis pas verni, je suis mat. Enfin, c'est une expression chez nous, les feuilles, ça veut dire qu'on a de la veine. Alors qu'on n'a pas de veine. Hein. Bref, on a de la chance. D'habitude, notre destin, à nous, les feuilles, c'est le noir absolu, la nuit éternelle dans le tiroir A, sous le rouleau, dans l'imprimante. J'y ai des consoeurs en ce moment. Elles ne savent rien de leur destin, les savoir ce qu'elles vont imprimer. Un itinéraire Paris-Conflans-Sainte-Honorine, un contrat d'assurance, une lettre recommandée au syndic. Mais non, là, sur un bureau, question destin, c'est autre chose. Ça peut être un début de roman. Vous vous rendez compte, s'ils se mettaient à écrire « Longtemps, je me suis couché, de bonne heure ». Non, non, ne rêvons pas. Ou alors une lettre d'amour. À la rigueur, un poème, on ne sait jamais. Es-tu brune ou blonde ? Sont-ils noirs ou bleus, tes yeux ? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde. Mais j'adore le désordre de tes cheveux. Ah ouais, bah ça me plairait bien ça, mais...
Il écrit bien, Hervé Le Tellier.
Il faudrait qu'il s'appelle Paul Verlaine.
Bah oui.
Et oui, il veut recycler ses vieux poèmes.
Voilà. Mais pour l'instant, rien. Non, non, rien. Le temps passe. On n'imagine pas ce que ça peut créer comme anxiété chez nous, les feuilles. Cette expectative. On appelle ça chez nous, je ne sais pas si vous connaissez, l'angoisse de la page blanche. Je connais qu'on craquait. Alors pour patienter un peu, bon ben, vous voulez savoir combien je pèse ?
Oui.
Ah ben, c'est la minute pédagogique. Alors comme je suis du papier, 80 grammes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le papier... 80 grammes fait
80 grammes
pour un mètre carré. Et oui, et comme je suis une feuille A4, eh ben je le savais. Pour une feuille A4 qui fait un 16e de mètre carré, c'est 16 fois moins. Donc je pèse 5 grammes. Donc quand il y a une ramette de 500 feuilles, je fais 2,5 kg. Bon, voilà. Voilà, bon, ça y est, vous avez compris. Ça fait rien. Bon, ah ben ça y est, le type a écrit quelques mots là, en haut, centré. Papou en cours. Oh, c'est beau. Je me demande tout de même ce que ça peut bien vouloir dire. Peut-être un reportage sur les écoles publiques en Papouasie. Oh, je les imagine bien, ces dizaines de petites têtes brunes face à un tableau noir, avides de savoir. Les papous en cours. Et pourquoi pas les aborigènes à l'université ? Mais rien. Non, non, rien. Ce type n'a absolument aucune idée de l'attaque possible de ce papier sur les papous. Bah, je suis désolé, ça n'avance pas. Je crois même qu'il n'est plus là. Ouh ! Ah non, il n'est plus là, il est parti sur un café. Pourvu qu'il ne pose pas la tasse sur moi, ça me fait toujours des tâches. Je déteste ça. Notez que je préfère ça à ce qui est arrivé à 142. Vous savez, 142, la feuille juste avant moi.
Ouais.
Eh ben, il a noté quelque chose, j'ai même pas pu lire parce qu'il appuyait pas assez fort. Mais en tout cas, ça devait pas être formidable parce qu'au bout de 5 minutes, il a pris son 42 et il l'a froissé. Ouais, froissé. Oh, vous auriez vu la tête de 142, s'y attendez pas du tout. Hein. Bonjour le torticolis, et direction la poubelle. Pourvu que ça ne m'arrive pas. Le pire, c'est d'être déchiré. Ça doit faire atrocement mal. Ah, un mot. Deux mots. Il a écrit « je suis ». Ah non, il rature. Ah, ça chatouille, les ratures. Je suis. Ah, ça, bravo, ça valait bien le coup de faire une grosse rature pour écrire exactement la même chose. Je suis. Un temps. Une feuille blanche. Mais c'est un simple coupé-collé. Je suis tombé sur un plagiaire. Il n'y a rien de pire. Tiens, j'aime mieux me taire.
Bon, moi je me tourne vers Lucas Fournier. Je demande à Lucas Fournier s'il est quelque chose ou quelqu'un dans la vie de la page blanche. Oui. De la feuille blanche, oui. Même. Oui, vous êtes qui ?
Je suis la marge.
Oh, la marge.
La marge, oui, je suis la marge. Parce que la marge est dans la page.
Bien sûr, oui, évidemment, elle fait partie du format et du poids.
Y compris dans la 143.
Oui.
Et pourtant, sait-on qui je suis vraiment ? Et pourquoi j'existe ? Et pourquoi ne veut-on pas m'aimer ? La margelle au bord du puits est un point d'appui au-dessus du gouffre. Mais la marge au bord de la page, c'est le contraire. C'est le grand gouffre blanc où les mots ont disparu. Le vertige, il n'est pas dans la page blanche, il est pour toujours dans la marge. Les mots disent des choses. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais l'absence de mots, que cache-t-elle ? Ça, personne ne le dit. Alors, je sais, moi, où je commence, oui. Sur la tranche acérée du papier, mais qui sait où je dois finir ? De quel droit l'auteur peut-il me fixer une limite ?
Oui.
Au commencement était la page, écrit Hervé Le Tellier ou Marcel Proust, je ne sais pas. Non, au commencement était la marge, car ontologiquement, une page blanche, c'est d'abord une marge sans limite. Et ça, personne ne le dit.
Trop peu de gens le disent, en tout cas.
Jean-Jacques Rousseau avait parfaitement raison. Le premier qui a dit « ceci est à moi » est un scélérat. Et le premier Hervé Le Tellier venu, qui trace un trait sur la feuille 143, est à la fois mon créateur, à gauche de son écriture, naît la marge, et mon mutilateur, car il réduit mon espace.
Oui, mais c'est l'espace des corrections, non, c'est vrai.
Et pourquoi ce complot du silence sur la marge ? Mais savez-vous qu'il y a des marges dans beaucoup de livres ? Tolstoï, Corneille, Shakespeare, Goethe. André-Pierre de Mandiargue a d'ailleurs écrit un livre.
Entièrement consacré à la marge.
Entièrement consacré à la marge. Anna Gavalda, ils ont choisi de me glisser à chaque page de leur livre. Alors pourquoi ? C'est donc que moi, la marge, je sers à quelque chose, que je suis utile. Quand je me contemple, je trouve pourtant que je ne sais rien dire, que je ne pense pas, que je suis un non-être. Pourtant, comme le sait Spinoza, je voudrais persévérer dans mon être. Alors parfois, je me console en lisant la page à côté de moi. Pas forcément celle de Hervé Le Tellier. Mon absence de mots est souvent très supérieure aux mots qu'on en a tracés. Et ce silence de mon espace infini m'effraie. Mais ça, personne n'en parle jamais. Finalement, la page, elle est terriblement humaine. Comme dit Blaise Pascal, infinie dans ses vœux, bornée dans sa nature, elle est une feuille tombée qui se souvient de l'arbre. Mais moi, la marge, vous savez, celui qui écrit sur moi en ce moment et dont vous entendez les paroles, il dit qu'il écrit sur la marge. Eh bien, ce n'est pas vrai. Regardez mes feuilles. Trois pages sur la marge, toutes écrites à droite de la marge. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, j'ai mal à la tête.
Oui. Ouais. Parfois, vous pensez trop, à mon avis.
Oui, c'est mon côté marginal aussi.
J'ai reçu une lettre identique du pied de page.
Ah, pareil.
C'est fatigant. Voilà, j'attends l'entête maintenant.
C'est dans la marge qu'on met des notes à mener. Je parle de la marge du brouillon, évidemment, ou des corrections.
Il y a des marges célèbres. Hein.
Oui.
Il y a la marge, par exemple...
La marge de l'empereur,
La marge de l'empereur. Il y a la marge de M. de Fermat, qui a quand même mis en marge le théorème dit de Fermat, et qui était simplement une conjecture. Donc il y a des marges qui ont un destin incroyable.
Vous le rappelez brièvement ?
Non, on n'a pas le temps.
À 4 contre 1, ma main maintient le stylo. Ma vie roule sur les lignes de ce paysage vierge. J'ai le vertige des premiers mots, placé très haut. Vivement la chute, mais pour ça faut que je gamberge. Je me fais argonaute de ce panorama octogone à la main. Mes idées font du pogo, tout se bouscule dans ma tête. J'ai pas pied, y'a pas de mer, mais je lâche quand même l'encre au cœur de cet univers. Mine qui fait des loopings, forme consonne et voyelle. Assonance sans annonce, singulier et pluriel. Métaphore finement filée, trois branches de thème que tu fais blanchir. réfléchir avec des petits carreaux perforés. Une pincée de syllabes, c'est les poivres sur les rimes. J'étale le bleu marine quand l'alphabet se balade. Feuille blanche, un terrain Groenland. Une piste de danse ambulante pour faire swing, swing et les idées.
Principe des vases communicants, comme un mécan, comme un nican. Comment communiquer si l'unique point manquant commun manquait? Comment communiquer si l'unique point manquant commun manquait?
Feuille blanche, version O2N. Jean-Bernard Pouy et Lucas Fournier, vous allez jouer à tour de rôle avec une autre contrainte, celle des suppositions et tout un champ de possibles, donc l'embarras du choix. Inventer un nom de personnage qui pourrait se retrouver dans un calembour à la fin d'une histoire, qu'il faudra imaginer une histoire que vous dédierez à un papou en l'apostrophant ainsi. Suppose que tu t'appelles. Allez-vous jouer en premier, Jean-Bernard Pouy? Elle s'adresse à qui, cette histoire?
À Jacques Vallée.
Il se sent flatté.
Oui.
Quel que soit le nom, quelle que soit l'histoire.
Attends de savoir ce qui t'attend. Pour...
Oui.
On accepte tout.
Venant de Monsieur Pouy, c'est ça?
Oui.
Jacques Vallée, suppose que tu t'appelles Perdu.
Perdu, c'est que... joli, comme les objets.
Voilà, mais les objets, c'est surtout les objets trouvés, hein.
Oui, c'est vrai.
Parce que le bureau des objets perdus, il est trop grand. Puis,
je me sens un peu comme ça, quand même.
Perdu.
Voilà.
Et que, même si tu n'aimes que la peinture des Flandres et de la Hollande du XVIIe siècle, il faut bien que chaque jour, tu gagnes ton pain perdu.
Ah, oui.
C'est pour cela que tu es devenu entomologiste, appointé par le Muséum d'Histoire Naturelle. Tu as choisi cette spécialité après avoir lu André Gide, qui écrit quelque part « Les plus beaux sujets de drame nous sont proposés par l'entomologie ». Et tu t'occupes, parmi les diptères, de l'ordre des tabanidés, ce qu'on nomme vulgairement les temps. Souviens-toi quand tu étais jeune et que tu te faisais piquer dans les champs par ces grosses mouches, et que tu avais de la peine perdu. Souviens-toi aussi.
C'est un festival.
C'est une scène, ça.
Ouais. Souviens-toi.
Non, mais vous servez à plein de choses, Jacques Vallée.
Souviens-toi aussi que tu adorais la mythologie. Et surtout l'histoire d'Héra, qui jalouse avait envoyé un temps pour piquer Io, celle-ci devant fuir en Égypte. Tu t'es aussi souvenu que Socrate était nommé le temps des Athéniens. Cette grosse mouche que les vaches, les chevaux et les hommes haïssent et qui empêche que notre campagne soit un paradis perdu. Tu as d'ailleurs appris ensuite que cet insecte ne pique pas, mais mord. Alors tu t'es intéressé à lui jusqu'à en devenir l'un des meilleurs connaisseurs mondiaux. Le problème est que les hommes ont l'habitude de les écraser d'une bonne claque, alors c'est extrêmement difficile d'en avoir d'intact pour les étudier et les exposer. Naturalisés au bout d'une épingle. Il faut les attraper un peu comme des papillons. Et il y en a un qui échappe aux collections des entomologistes, un temps curieux, qui possède de petites touffes rouges sous les élytres, de la sous-famille des Pangolinae et du genre d'Azirampsis, défini en 1922 par Underline et repéré l'été dans les champs entre Nogent-sur-Seine et Troyes. Et c'est pour le capturer que depuis 2 ans, tu zones dans les plaines herbeuses de l'Aube, à la recherche du temps perdu.
Oh. Ça n'est pas venir du tout.
Mais non, pas du tout. Très jolie, très belle histoire pour vous.
C'est formidable, il y a une telle culture.
Ah ben oui, mais qui passe légèrement, parce que Jean-Bernard Pouy n'étale jamais.
Non, jamais.
Il est toujours comme ça, léger, au-dessus de la référence.
Je vous remercie.
Lucas Fournier, alors?
C'est pour Hervé,
oh, volontiers.
Notre éternel adolescent.
Oui.
On en a un seul, mais on y
mais
tient.
Mais on y tient.
Donc je Hervé, oui. Suppose que tu t'appelles fille.
Fille comme une
fille.
Fille,
fille, fille. Fille. Tu as 15 ans.
Oui.
Oh, ouais. Roméo, l'âge de Juliette. Et à quoi rêvent les jeunes, fille? Toujours à la même chose, c'est marrant. Hein. Des boutons sur le nez, sur les joues de l'acné, mais le cœur conquérant. Et les grelots qui sonnent.
Oh. Les grelots qui sonnent.
Au pays de Macbeth, elles sont bêtes, les filles, filles. Les filles d'Écosse à la laine fraîche. Tu l'as aimée à Inverness, cette fille, fille, aux yeux couleur Guinness. Mais dans un bar de Glasgow, elle t'a dit « No way, go ». Tu l'as aimée à Édimbourg, cette autre fille, fille. Elle a vu ta cornemuse, elle a dit « Non, c'est un peu court. Tu l'as aimé à Aberdeen, cette autre fille, fille. On se parle, on sourit et l'on dîne. Sera-t-elle digne du don caché sous ton kilt ? Non. Elle veut qu'on se quitte. Après la touche écossaise, tu t'essayes à l'anglaise. On y soit qui mal y pense. Fille, décidément, tu n'as pas de chance. Encore un fiasco amoureux. Et c'est souvent douloureux. Te voici seule à Soho, accablée de sorrow. Longtemps, tu as mangé de bonheur. Dans un pub, il est midi exactement. Tu grignotes une apple pie, tristement. À Londres, des jeunes filles en pleurs.
Oh, oh oui. C'est joli.
Oui, c'est mignon.
Des jeunes. Alors, vous dites une apple pie.
Ça
vous...
marche pas avec Dean, par exemple.
Ça rime avec, oui, c'est... Oui, ça rime avec Dee.
Ben oui, oui, c'est mieux.
Vous avez des papous dans la tête ? Essayez France Culture.
Tous les dégoûts aux papous sont dans notre catalogue de pamphlets. Dernièrement, au Salon du Livre, Gérard Mordia pestait contre les vérandas. Heureusement, Serge Joncourt avait pris leur défense en se glissant dans la peau d'un vérandiste. Ça existe. Une séquence à retrouver en podcast sur franceculture.fr, à la page des papous du 26 mars. Alors, on peut détester plein de choses. On peut aussi détester les poussettes sur les trottoirs. C'est le cas de Patrice Delbourg parce qu'elle gêne la progression de son vélo. Les pantalons taille basse aussi, ça c'est une détestation bien partagée par les papous ES de l'émission. Pourtant, on continue de les voir parader dans les boutiques de fringues, ces taille basse. Certains, d'autres, n'aiment pas les promenades. Et c'est le cas de Jacques Vallée qui veut aujourd'hui nous faire part d'un autre sujet de grogne. En ce jour où les petits cherchent des œufs et des poules en chocolat dans tous les coins, des jardins et des appartements, Jacques Vallée, lui... Et contre, c'est bien ça?
Je suis contre les desserts, les sucreries.
Ah bon?
Ben oui, c'est un pamphlet contre les desserts.
Non mais c'est sincère, vous n'aimez vraiment pas?
Ben, oui. Le café gourmand.
La meilleure chose que l'on puisse connaître dans une éducation, c'est d'avoir souvent été privé de dessert.
Ah.
Ça donne l'occasion d'un rejet bénéfique, celui des desserts, des sucreries. Ainsi... J'ai tourné le dos très tôt à toutes ces douceurs superflues, les crèmes, les compotes, les gâteaux, les mousses, les bûches, les flans,
ah ouais, ça donne
les
ça.
Glaces, les chocolats, poires. Rien que de les nommer, je ressens encore une sorte de dégoût, de répulsion. Si parfois je suis tenté par un baba au rhum, c'est uniquement pour ma boisson originelle. Je dirais donc ma détestation des friandises. En premier lieu, les bonbons. Dès l'enfance, j'ai recraché les bonbons. Ces enfantillages débiles que l'on agite aux yeux des petits, les bonbons. Pour mieux les envoûter, les domestiquer, les asservir, les bonbons. Heureusement, j'ai échappé à ces crapuleux chantages. Si tu es sage, tu auras.
Un bonbon.
Moi, je n'ai jamais voulu être sage. Ou plutôt, j'ai toujours été un sage. Car j'ai toujours évité qu'on m'appâte avec ces sucreries, ces parfums écœurants, ces couleurs criardes. Quel cauchemar ce serait de se retrouver dans un univers à la Walt Disney avec un sol de calisson, des murs de caramel, entourés de nougats, de berlingots, de tapis de réglisse, dans un lit de pâte de guimauve.
Ah bah oui, la guimauve. Vous résistez même à la guimauve, Jacques?
Aujourd'hui, comment peut-on entendre sans frémir parler de chamallow, de monster peak, de fraise tagada. Ah, la fraise tagada, présentée comme le best-seller de la confiserie dans les publicités gourmandes, qui propose des images appétissantes qui vous donnent l'envie de gerber. Lors, il me semble que ce rejet ne concerne pas seulement l'art manducatoire, mais s'étend à tout le visqueux, le poisseux, le pâteux qui s'installe dans les esprits, dans les mœurs, dans les comportements, les arts même, les livres, les chansons sont contaminées par ce style sucré, doucereux. On se croirait revenu à l'époque de Dame Tartine. Tout ce retour aux bondieuseries sirupeuses, aux morales poisseuses, aux opinions fades, aux adhésions gluantes. Mais attention, ce bannissement du dessert n'empêche pas la gourmandise. N'empêche pas de célébrer la bonne chère, les bons vins, les alcools, les fromages. D'un côté, pour moi, ça simplifie le dilemme de certains menus, desserts ou fromages. Mmh. Et ça n'interdit pas d'admirer celles qui choisissent dessert, à l'instar de l'honorable gastronome Grimaud de la Reynère, qui écrit « Les dames brillent surtout dans leur manière de servir le dessert. C'est un moyen de leur faire déployer la délicatesse de leurs doigts et leur dextérité et d'en faire remarquer la blancheur. » Il dit également qu'il est impoli de laisser du vin dans son verre, alors si je bannis le dessert, je me réfugie dans le geste du buveur, santé.
Ah, et donc vous êtes un type qui prend toujours la formule entrée plat, quoi.
Oui.
Moi, je prends plat dessert.
Boisson comprise.
Boisson comprise.
Boisson comprise. Boisson comprise. Ouais. Enfin, c'est triste quand même, non?
Oui, quand même, quoi. Même pas le calisson.
Ah non, mais... Lorsqu'on est contre, il faut être contre.
Les petits nounours en chocolat avec de la guimauve dedans.
Ah, et un bon coup de yaman avec en plus du beurre et encore du beurre.
Oui, ah bah alors. Oui, un petit phare breton.
Et la crème, la crème de marron.
Et profiterole.
Ou un pitivier, c'est bon
savez,
le pitivier.
Il y a un personnage entier. Si je n'aime pas, j'aime pas. Donc vous n'allez pas me...
Vous êtes pareil avec vous... les gens, vous ne sauvez pas.
C'est l'ensemble que je
ouais, c'est le concept, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du sucre, vous, Violaine? Vous aimez?
Ben oui, surtout que je suis une sucrerie. J'ai même été élue par toutes les sucreries pour tenter de convaincre M. Jacques Vallée.
Oui. Ah ben alors là, peut-être que je réfléchirai.
Et je suis...
C'est lamentable. Bonjour le mec entier.
Tu vois quoi ça tient. Je suis le dessert des tartares. 300 pages de chocolat fondant sur lit de mots sucrés et délicieux. Des chapitres battus en neige très ferme, façon meringue. Ça devrait vous plaire, monsieur Jacques. Vous, l'amoureux des lettres. Ben, j'en profite pour citer l'autre Jacques. D'un Jacques à l'autre, n'est-ce pas? Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Quoique les fleurs soient plus présentables. Ce qui n'est pas vrai du tout. Quoi de plus joli qu'un berlingot, qu'une mignardise, qu'un sucre d'orge? Et me voilà encore obligée de citer une autre chanson. Annie aime les sucettes à l'Annie. On est les rois du hit parade, nous les sucreries. Les rois du tube. Hop, direct dans le tube, digestif. Alors ouvrez le vôtre et qu'on n'en parle plus. Arrêtez de faire le difficile, si vous voulez. Je me trempe dans le rhum pour vous amadouer. Allez, ouvrez la bouche, j'en ai assez d'être chocolat maintenant. Avalez-moi, vous commencez à me casser les bonbons à la fin. Puis c'est tout.
Oui, enfin, c'est une façon un peu abrupte de régler le problème.
Oh, ben quand même.
Oh, ben laissez-vous séduire un peu quand même, Jacques. Je trouve bien dur
mais,
avec...
Puisque mes camarades me reprochent, mon manque de...
Mais souvent, homme varie et c'est pas si mal, vous savez.
C'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots. C'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qui peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo.
Bébé, c'est rigolo. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, Madeleine, pourquoi tu déménages? Et la partie des experts contre les faussaires, notre jeu de bluff, de culture et de pastiche. Alors, Madeleine, pourquoi tu déménages? C'est la question que le mari de Madeleine, parfois Charles ou Charles à l'anglaise, lui pose le dimanche dans le feuilleton imaginé pour les papous par Jacques Jouet. Et comme ça, Madeleine, elle a la bougeotte. Et quand elle se lasse, Charles appelle les déménageurs et les voilà repartis pour de nouvelles aventures. Jacques Jouet, déjà le troisième épisode.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages?
Et pour aller où? T'es pas bien là où tu es? Non. Charles. Oui, Madeleine. Charles. Yes, Mad. Charles, qui n'aime pas être appelé Charles, a trouvé ce truc quand Madeleine, celle qui serait toujours bien là où elle n'est pas, comme dit Baudelaire, un type dans le genre de Madeleine, puisque, comme son mari, il se prénommait Charles, quand Madeleine l'appelle Charles, il l'a imaginé de l'appeler Mad. Je refuse que tu m'appelles Mad, Charles. Tu sais ce que ça veut dire Mad en anglais? Aucune idée, dit Charles. Alors ne compte pas sur moi pour te le dire, Charles. Oui, Madeleine. Je n'ai pas assez d'activité ici, Charles. Nous allons déménager. Charles n'est pas surpris. Charles s'y attendait. D'ailleurs, Clermont-Ferrand ne lui plaît qu'à moitié. Il n'ose pas encore le dire à voix haute, surtout ne pas faire d'impair. Il suffirait qu'il critique Clermont-Ferrand pour que Madeleine veuille défendre Clermont-Ferrand et rester quelques mois de plus. Or, il ne serait pas contre découvrir une autre ville, Charles. Et si Madeleine veut déménager parce qu'elle n'a pas assez d'activité, c'est ce qu'elle a dit. Elle va sans aucun doute choisir Marseille ou Lille ou Bruxelles, une vraiment grande ville. Londres, qui sait, Londres. Là, il serait Charles pour une fois à bon droit. La rue assourdissante autour de moi hurlait, comme dit Baudelaire. Charles croise les doigts. Voilà ce que nous allons faire, Charles. Nous allons louer une fermette aux Miellettes.
Oh.
Une fermette coquette. Les Miellettes, c'est un hameau perdu de la commune d'Aigurande sur Bouzanne. Charles a un coup de sang, il se touche le cœur et lâche. Mais mon cœur, ce serait vraiment trop bête de se payer un infarctus. Mais tout de même, le coup est sévère. Et Charles, qui avait revendu sur le bon coin son matériel de jardinage, dit soudain. Les déménageurs bretons seront là demain matin à la première heure. J'ai repris les mêmes. Tu as bien dit qu'ils travaillaient très bien. Les Miellettes, c'est bien le diable. Si on n'aura pas des abeilles, en état de marche. Tiens, je t'ai acheté un voile avec chapeau. Ça t'ira à ravir. Et les voilà partis pour Aigurande-sur-Bouzanne. Madeleine respire par avance de tous ses poumons. Nous aurons un hectare, dit Madeleine. Un hectare avec une mare à grenouilles et la Bouzanne quasi privative qui coule à portée de la main. On pourra s'y baigner tout nu. Tu crois qu'on peut se baigner dans la Bouzanne, mon cœur? Pourquoi pas dans le lisier pendant que tu y es? Tout nu, Charles. Enivrons-nous, Charles, de poésie, de sexe ou de verdure. Mais enivrons-nous, c'est toi qui l'as écrit. Mais Madeleine, Baudelaire, puisque tu n'as que Baudelaire à la bouche, mais c'est la ville, Baudelaire, Madeleine, la grande ville, la ville moderne, le pavé, les fumées, le vacarme, le contraire du grand air. Charles, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête avec Madeleine. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde. C'est pas de Baudelaire, peut-être, Charles? Charles est mouché. Il s'incline sportivement. Il boude. Pendant qu'il boude, Madeleine ne perd pas son temps. Elle est allée frapper chez les voisins. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Ils sont anglais, comme Charles. D'ailleurs, le monsieur distingué, il s'appelle Charles. Quelle coïncidence. Et sa femme, Margaret. Mais bien sûr qu'on peut vous prêter notre tondeuse à gazon électrique spéciale pour les hautes herbes. Que je vous explique le fonctionnement. Attention, il y a plusieurs vitesses. Charles, viens ici, mon Charles. Et voilà Charles, furieux d'être obligé de sortir de sa bouderie, qui doit serrer la main de Charles. Nice to meet you, nice to meet you. De Margaret, nice to meet you, nice to meet you. Merci beaucoup, you are welcome. Et voilà Charles qui doit prendre le guidon de la tondeuse et la pousser devant lui jusque dans leur domaine. Il met le contact, vise une allée que Madeleine lui a ordonné de creuser dans les hautes herbes jusqu'à la mare d'abord, jusqu'à la Bouzanne ensuite, roule ma poule. La première vitesse, Charles, la première. Mais Charles ne sait plus très bien distinguer la première de la seconde. La tondeuse prend l'initiative et Charles se sent obligé de la suivre comme s'il était le maître d'un chien de chasse qui vient de renifler le lièvre. Charles, le frein! Charles, le frein! Plouf! Ding, ding, ding! La tondeuse est dans la mare avec Charles qui n'a pas lâché le guidon. Il a pris une décharge, heureusement sans gravité. Mais les grenouilles ne peuvent pas en dire autant, dont les cadavres électrocutés flottent à présent de façon pathétique au milieu des lentilles d'eau. Mon pauvre Charles, dit Madeleine, grâce à ton sens inné du travail manuel, dès le premier jour, nous voilà brouillés avec nos voisins. Alors là, je dis bravo. Brouillés? Comme les œufs. Je leur ai apporté un plat de cuisses de grenouille en me disant que c'était un bon moyen de nous racheter. Mais voilà, tu ne peux pas t'imaginer comme ils m'ont accueilli fraîchement. Non, effectivement, je ne peux pas l'imaginer, dit Charles, sombre. Et puis je leur ai promis un pot de miel. Quel miel? Bah, ton miel, Charles. Mon miel? Charles éclate de rire, Charles a le fou rire, Charles se tient les côtes de rire. Madeleine déteste quand Charles a le fou rire, elle a envie de le battre. S'il continue, elle va le battre comme plâtre. Madeleine brandit le tire-botte en bois de palette. Charles n'a plus envie de rire. Charles. Madeleine. J'ai compris, Charles. Qu'est-ce que tu as compris, Madeleine? La campagne, ce n'est pas vraiment pour toi, Charles. Et alors, mon cœur? Nous allons déménager, Charles.
À suivre dimanche prochain.
Il y a un arbre semi-colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape et tu t'y colles. Je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, puis j'envole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournaient nos rondes folles, puis j'envole, vole, vole, vole. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole. Tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Et un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis parti, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand.
Gérard Depardieu chante Barbara. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, expert contre faussaire, qui opposera dans une joute amicale trois pasticheurs, bluffeurs et très cultivés. J'ai nommé Odile Conseil, Patrice Delbourg et Jacques Jouet, à trois experts pas commodes, parce qu'ils ont beaucoup lu, beaucoup retenu de leur lecture, et ne se laissent pas berner sans résister, à savoir Gérard Mordilla et Patrick Beignet. En position neutre d'auditeur attentif, Jacques Vallée. Il a choisi un certain roman avec lequel nous jouerons, le roman d'un grand écrivain dont tout le monde a lu au moins un petit quelque chose. Et à défaut, les gens un peu cultivés ont une idée de son style d'écriture et peuvent l'imiter. De toute façon, Jacques Vallée va nous remettre ce roman en mémoire, nous donner l'humeur, l'ambiance du début et de la fin. Ensuite, nos faussaires papous écriront en une demi-heure, ce qui est pas long, vous savez, ce qu'ils pensent être le début et la fin de ce roman, juste quelques lignes qui seront en deuxième partie de jeu soumises à l'aveugle, ainsi que les vrais débuts et fins aux experts qui devront alors reconnaître le vrai parmi les faux et attribuer son pastiche à chacun des faussaires. C'est un jeu difficile auquel je vous recommande de jouer aussi en famille ou entre amis, c'est amusant. Jacques Vallée, quel auteur et quel roman avez-vous relu et choisi pour nous et pour ce jeu?
C'est un choix d'un roman de Jules Renard.
Oh, chouette.
Et ça s'appelle « Les cornifleurs ».
Ah, oui, magnifique. Ah, oui.
Alors, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un parasite, Henri. Il n'a pas d'autre nom, on l'appelle Henri. Qui se rend indispensable auprès d'un ménage bourgeois, Monsieur et Madame Vernet, la quarantaine, qui n'ont pas d'enfants et qui s'ennuient. Et Henri est un petit monsieur désœuvré. Il croise Monsieur Vernet dans un autobus à Paris, lui fait des politesses, se dit homme de lettres et fascine le bonhomme un peu balourd qu'il invite chez lui. Henri est flatteur, il prend des pauses, baratine, déclame des vers, fin d'écrire un roman, s'invente une collection d'amis imaginaires. Bref, on met plein la vue au couple. Bientôt, Monsieur Vernet ne peut plus se passer de lui. Et madame, surtout, va devenir toute chose en sa présence et se prendre pour sa muse. Si bien que la famille l'emmène en vacances au bord de la mer. Mmh. Et la plus grande partie du roman, d'ailleurs, est une peinture savoureuse d'un séjour d'estivant au bord de la Manche, où Jules Renard venait de faire un séjour. Il se montre toujours un fin observateur des comportements féminins et masculins. Se greffe à cette histoire l'arrivée d'une nièce un peu niaise, et Henri va essayer de séduire les deux femmes, tout en ayant des scrupules vis-à-vis de son hôte. C'est Henri qui fait le récit, hein, c'est lui qui parle, et il ne cache pas ses maladresses, ses stupidités, sa déconfiture.
Bon, c'est bien, je suppose que tout le monde parmi nous a lu Les Cornifleurs un jour, ne s'en souvient pas pour autant par cœur. Ah, j'imagine. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, nous mettre en situation le début et la fin?
Alors, le début. Le roman commence par la présentation rapide de Monsieur Vernet et l'allusion de l'attitude protectrice et dévouée de sa femme à son égard.
Voilà, c'est bien situé. Et la fin?
Henri quitte le couple poliment et s'en tire par une pirouette spirituelle qui évoque ironiquement sa vocation de pique-assiette, une formule qu'il a dégotée dans l'œuvre d'un écrivain contemporain qu'il nomme.
Ah, donc ça c'est important.
Oui, 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 c'est
très
ça,
important. Et c'est du Jules Renard pur sucre.
Oui, tout à fait.
Alors amusez-vous bien. À tout à l'heure. Les amis, Odile Conseil, Jacques Jouet, coucou, Patrice Delbourg. Vous avez bien travaillé, ça s'est passé correctement, Jacques Jouet?
Correctement.
je veux dire, vous étiez à l'aise.
Grammaticalement, oui.
Vous étiez pense, heureux j'espère. De faire du Jules Renard?
Ah oui, 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 très heureux.
Odile aussi?
Oh oui, un bonheur sans mélange.
Bon, oui. Patrice.
Un souhait d'enfance pour moi.
Ben voilà. Alors, j'ai en main vos textes ainsi que le vrai Jules Renard. Bon, j'ai mélangé, je distribue au hasard. Un texte pour Jacques Jouet, un texte pour Odile Conseil, un texte pour Patrice Delbourg. Et puisqu'il faut un quatrième lecteur, ce sera une lectrice, ce sera moi. Allez, on y va, on fait un premier tour de table. Et Patrick Beignet, Gérard Mantilla, vous intervenez quand vous le souhaitez, bien sûr, sur ce texte. Alors, le texte que va lire Jacques Jouet, est-il de lui, est-il de Odile Conseil, de Patrice Delbourg ou de Jules Renard? Bah, c'est à vous d'argumenter pour nous le dire. Jacques Jouet, on vous écoute.
N'était sa calvitie précoce, M. Vernet portait beau pour un homme de 45 ans. Il vivait dans le confort et l'oisiveté avec son épouse, qui l'entourait de recommandations et d'une sollicitude presque excessive. Elle se consolait ainsi de n'avoir pas eu d'enfant.
C'est le début.
C'est le début.
Une remarque à faire?
Ça commence très bien. Ah bon? Je trouve que ça commence bien.
Oui. Non, je trouve que c'est pas très dynamique, non, je trouve ça un peu mou.
Donc c'est moins Jules Renard pour vous que pour Mordillat?
Oui, oui, oui.
D'accord, on écoute la fin.
Henri prit son bagage et se redressa vers ses hôtes. Mes amis, je ne saurais mieux dire que du ma fils. Mon ventre aura pour vous une reconnaissance éternelle. J'ai profité de votre hospitalité plus que de raison. Il est temps pour moi de partir. Il franchit la porte sans un mot de plus, sans se retourner, pour que les Vernet ne voient pas son trouble.
Alors, vous vous rappelez que dans le pitch de Jacques Vallée, il était question d'un auteur très connu qui était cité à la fin. Donc là, le choix de Dumas fils a été fait. Gérard Mandilla.
Je pense que tout va se jouer sur ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir distinguer les textes en fonction du choix de l'auteur qui sera cité. Dumas fils, c'est une très bonne idée. Le texte Là Soudain, contrairement au début, me paraît un peu trop long pour être du Jules Renard. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, accumule les phrases, alors que je sens chez Jules Renard une brièveté plus dure.
Une brièveté plus dure, bah, c'est très bien, c'est un argument. Patrick Beignet.
Oui, mais je poserai l'argument contraire. Il est tellement content de finir qu'il... Tout à coup, il se laisse un peu aller. Je trouve également que Dumas fils est un très bon choix,
oui.
qui pour nous est un peu inattendu.
Oui, hein. C'est pas forcément...
Ou alors c'est quelqu'un de très cultivé, mais je vois pas qui l'a choisi, ou bien c'est Jules Renard. Et je trouve la fin bien meilleure que le début. Je trouve ce « N'était sa calvitie », c'est pas un début de roman comme,
c'est vrai.
Comme je les aime, disons.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est le début. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un... Oui, je suis d'accord.
Ah ben voilà. Bon, écoutez, vous n'attribuez pas encore.
Non, non. Hein,
mais vous prenez des petites options, des vagues options. Alors, Odile Conseil, vous avez l'honneur de défendre un texte qui est sous vos yeux. Je ne sais pas de qui il est. Et pour le moment, personne ne le sait, mais c'est à Patrick Bénier, à Gérard Mandia de le dire. On l'écoute.
Vous le croirez si vous voulez, mais souvent, devant mes amis, au cours d'un repas, mon épouse n'hésite pas à proférer force bêtises à la cantonade pour me laisser le temps de réfléchir à un bon mot.
Oui. Mmh. Ne froncez pas le nez comme ça, vous avez l'air inquiet, Gérard Mandia.
Ça, je trouve que là, ça démarre moins bien que le précédent.
Oui. Pareil, Patrick.
Bah oui, un ton familier, parlé.
Oui.
On n'est pas dans la recherche d'une perfection.
Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui souffre peut-être, et peut-être ah, Jules Renard.
Qui ne souffre pas dans la vie.
La fin, Odile Conseil.
Henri prit congé de notre tandem assez abruptement, son doigt pointé vers le ciel, en leur rappelant ce vieil adage d'Alphonse Allais, maître incontesté en pignoufrie. Ah, l'éternel féminin, disait le mari dont la femme n'en finissait pas de mourir.
Alors, irruption d'Alphonse Allais. Vous souriez tous les deux, pignoufrie vous a aussi fait sourire. Pourquoi, Patrick Meynier?
Ben, c'est pas le même sourire. Je sais pas si vous avez bien regardé. L'idée d'Alphonse Allais, qui était un ami de Renard, était une très bonne idée.
Mm-hmm.
La pignoufrie me surprend un peu ici.
Mm-hmm.
Et je ne pas certain que tout ça fasse un très bon mariage. Et ah notre oui. tandem, ça désigne le couple, si je comprends bien.
Henri prit congé de notre tandem assez ouais. abruptement.
Ouais. Ça vous éloigne donc de Jules Renard, mais ça vous rapproche de quelqu'un?
Pas sur le champ.
D'accord. J'ai rarement dit. Hein.
Non, c'est vrai que et le tandem et la pignoufrie nous éloignent très largement de Jules Renard et nous rapprochent d'un auteur qui a un goût pour le sport et un certain vocabulaire toujours fleuri et choisi.
Antoine Blondin?
Par exemple.
Mais il n'est pas avec nous aujourd'hui.
Peut-être l'est-il là.
Quand même.
Croiserons nos mains.
On avance un peu masqué, mais on va découvrir une troisième lecture. Troisième lecteur, Patrice Delbourg.
C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. La chute, si j'ose dire. Mes chers amis, une dernière fois, merci et adieu. Il me ne reste plus qu'à me coller au dos cette étiquette trouvée dans le journal des Goncourt, ACD, un parasite qui a déjà servi.
Alors nous avons eu Dumas fils, nous avons eu Alphonse Allais, maintenant on a les Goncourt. C'est un beau panel, non?
Oui.
Gérard Mandia.
Moi je pense que là il y a en tout cas deux verbes qui me feraient penser tout à fait à Jules Renard, qui c'est l'épingle et le boutonne. Il y a quelque chose là qui, d'un seul coup, me paraît très juste au regard de son écriture.
Oui.
Les phrases sont brèves, très précises et avec un choix très délicat des verbes. Quand il dit « l'épingle et le boutonne
oui. »,
on sent absolument d'abord une époque qui est celle de Jules Renard, où on s'épingle, où on se boutonne. On voit effectivement la redingote avec tous les boutons. Et surtout, on sent comment ce monsieur Vernet est entièrement entre les mains de sa femme, qu'il se laisse faire, qu'il est au fond un grand et gros enfant.
Et oui, qu'elle n'a pas pu avoir. Qu'elle n'a pas eu, je ne sais pas. Patrick Bénier, d'accord?
D'accord, oui. Je trouve le début excellent.
Oui.
Autant les deux premiers me paraissaient... Mollasson n'est pas convaincant.
Oui, c'est ce que vous aviez dit. Oui.
Là, il y a un choix de style, il y a un mode de narration
oui.
qui est très fort et qui est appliqué avec toute la justesse et la profondeur qu'analysait si bien Gérard. Je suis un peu sceptique sur la présence du journal des Goncourt dans ce livre qui date de quelle année, je ne me souviens plus.
1892.
Oui, en 92, je ne pense pas que le journal des Goncourt, il n'était pas publié, peut-être des fragments. Mais
ouais,
donc là, il me semble qu'il y a un anachronisme.
Une petite maladresse.
En tout cas, quelqu'un comme Renard, en 92, ne cite pas le journal des Goncourt comme une référence, même pour le public...
D'accord.
Assez limité qui est le
d'accord.
sien.
D'accord, ça c'est un très bon argument. Hein. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord, puisque Gérard Mordia part légèrement sur une piste Jules Renard, Et Patrick Beignet, non, sans attribuer pour autant tout de suite. Patrick,
oh, on va écouter une deuxième fois.
Oui, puis le dernier texte que j'ai en main. Donc le début. Monsieur Vernet se tient tellement droit que même assis, on le croirait debout sur ses jambes. Madame Vernet ne peut s'empêcher de s'orienter vers lui de tout son corps un peu guindé. Elle le surveille en l'admirant, elle l'admire en veillant au grain. Il y a quelque chose à faire avec ces deux-là. C'est le début des réactions.
Oui, je trouve ça beaucoup plus fort que les trois précédents. Oui. Là, j'entends un auteur du genre de Jules Renard, disons.
Ah, très bien. La fin. Bah, je ferai mieux la prochaine fois. Il y avait une phrase utile quelque part chez le méchant Blois. Quand on veut berner un homme, ne pas le choisir parmi les trop crétins.
Ah oui. Bah, là, je pense qu'on a deux indices très forts, qui est le « bas », qui est une chose que l'on retrouve assez souvent chez Jules Renard. Il aime bien
« bas », B-A-H.
B-A-H, ce genre d'onomatopée, de notation du « là ». Et puis « Blois », qui soudain, là aussi, le méchant bois, oui, ça me paraît aussi très proche de Jules Renard. Mais surtout, le début est remarquable, quoi. Droit, même assis, etc.
C'est vraiment... c'est drôle, d'ailleurs.
Oui, c'est très drôle, oui.
Bon, début, très bien. Je note.
Oui, moi, je suis très embêté, Patrick. Parce que je trouvais également le début excellent.
Oui.
Pas si loin, d'ailleurs, du troisième.
Oui. Hein.
Mais le méchant Blois ne me convainc pas du tout. Comme
ah, vous, la présence de Blois, c'est non.
Et des quatre auteurs auxquels il se réfère, c'est Dumas fils qui me paraît le... Il est un peu surprenant pour nous en 2017.
Oui.
Et ça lui donne, pour moi, une sorte de crédit, légitimité. Oui. Ça dit, j'aimais moins le texte. Hein. Mais...
Bon, mais vous savez quoi? Vous avez une deuxième chance, puisqu'on réécoute tous les textes. Et là, il faut statuer texte après texte et ne pas revenir en arrière, parce que, voilà, on n'a pas le droit à ce genre d'erreur au papou. Jacques Jouet, vous nous relisez le texte que vous aviez sous les yeux tout à l'heure.
Voici le début. N'était sa calvitie précoce. Monsieur Vernet portait beau pour un homme de 45 ans. Il vivait dans le confort et l'oisiveté avec son épouse, qui l'entourait de recommandations et d'une sollicitude presque excessive. Elle se consolait ainsi de n'avoir pas eu d'enfant. La fin. Henri prit son bagage et se redressa vers ses hôtes. « Mes amis, je ne saurais mieux dire que Dumas fils. Mon ventre aura pour vous une reconnaissance éternelle. J'ai profité de votre hospitalité plus que de raison. Il est temps pour moi de partir. » Il franchit la porte, sans un mot de plus, sans se retourner, pour que les Vernet ne voient pas son trouble. »
Donc c'est dans ce texte lu par Jacques Jouet qu'apparaît Dumas fils, qui vous convient bien, Patrick Beignet, je crois.
Et oui. Et à la deuxième lecture, bien écoutez, je me fais une raison, puisque je sens plus de justesse dans la citation, la référence à Dumas fils. J'accommode le reste du texte à cela. C'est moins brillant que ce qu'ont fait certains des pasticheurs, mais bon, ça arrive, c'est un risque à courir pour Jules Renard.
Hein. Oui.
Il se fait doubler, à mon avis, par deux de nos amis, et donc j'attribuerai à Jules Renard ce premier texte.
Bien, ben voilà qui est dit. Et pour Gérard Mandy, alors vous aviez dit tout à l'heure que c'était un peu long à venir pour être du Jules Renard.
Je trouve que les phrases sont trop longues. Et puis, il y a des choses qui sont quand même des notations relativement faibles, quoi, la calvitie, son trouble. Enfin, il y a une fin qui n'est pas une fin, ça rebondit. Voilà, je trouve que ce n'est pas la sécheresse habituelle que je lis ou que j'ai en mémoire chez Jules Renard.
Et donc ?
Je pense que ça, c'est un texte d'Odile Conseil.
À cause de la calvitie, c'est faible. Vous voulez déjeuner avec elle après ou pas?
Peut-être qu'elle a un souci avec les cheveux.
Bon, donc nous avons un Jules Renard et une Odile Conseil. Deuxième lecteur, c'est une lectrice, c'est justement Odile Conseil qui nous relit le texte.
Vous le croirez si vous voulez, mais souvent devant mes amis au cours d'un repas, mon épouse n'hésite pas à proférer force bêtises à la cantonade pour me laisser le temps de réfléchir à un bon mot.
Et la fin ?
Henri prit congé de notre tandem assez abruptement, son doigt pointé vers le ciel, en leur rappelant ce vieil adage d'Alphonse Allais, maître incontesté en pignoufrie. « Ah, l'éternel féminin !» disait le mari dont la femme n'en finissait pas de mourir.
Alors, Gérard Mandia, vous avez dit « tandem et pignouferie », ça ne peut pas être du Jules Renard.
Oui, et puis il y a d'autres mots comme « cantonade » et puis l'idée de faire un bon mot. Et la pignouferie me paraît appartenir à Patrice Delbourg. Je pense qu'il aime souvent dire « voilà, c'est de la pignouferie ». Et qui, plus que lui, est à la recherche du bon mot ? Il est quand même un des meilleurs parmi les papous pour justement sortir ce qu'il faut au bon moment et souvent à la cantonade. Donc je dirais que c'est du Patrice Delbourg. Bien entendu, il y a Alphonse Allais. Alors ça peut être un piège, ça peut être quelqu'un qui essaye d'imiter Patrice Delbourg, bien entendu.
Ah, mais il est inimitable.
Mais son admiration aussi pour Alphonse Allais, dont il nous a souvent fait part, me fait penser que tout ça, c'est du Patrice Delbourg.
Eh bien voilà, c'est bien argumenté. Patrick Beignet.
Eh bien, je ne peux pas mieux dire.
Ah, pareil.
Ah oui, pareil, oui, c'est...
Oui, vous aviez trouvé la pignoufrie un peu déroutante.
Oui,
pour,
mais dans la
bouche
de Delbourg, ça, on reconnaît une sorte de système. Et le début, c'est le ton parlé était très, très proche d'Alphonse Allais, effectivement. Mais il ne s'agissait pas de faire un pastiche d'Alphonse Allais. Mais
il s'est trompé.
C'est plus réussi comme pastiche d'Allais que comme pastiche de Renard, au fond.
Alors, nous avons deux très bons Patrice Delbourg pour votre lecture, Odile Conseil. Or, très bon, je dis très bon pour le moment, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment du Delbourg. On découvrira plus tard. Patrice Delbourg, vous lisez, vous aussi.
C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Mes chers amis, une dernière fois...
Ça, c'est la fin.
Oui. Mes chers amis, une dernière fois, merci et adieu. Il ne me reste plus qu'à me coller au dos cette étiquette trouvée dans le journal des Goncourt. ACD, un parasite qui a déjà servi.
Alors, Patrick Beignet, je vous rappelle que vous aviez trouvé le début excellent, que vous étiez très sceptique sur les Goncourt et que d'abord, vous avez déjà attribué Jules Renard. Donc,
ah bon ?
Vous ne pouvez pas recommencer.
Ah oui, j'ai déjà attribué Renard, mais pas pour ce texte-là.
Ah non, non.
Écoutez, j'ai trouvé la lecture de Patrice très différente cette fois-là. Il y a quelque chose de las, de fatigué.
Un peu, oui.
Oui. Alors, ça fait que le texte est moins enthousiasmant du point de vue Renard, disons.
Oui.
Et d'ailleurs, je suis un peu déconcerté. Je préférais la première lecture, mais on ne peut pas revenir
C'est-à-dire que Patrice Delbourg n'est pas un comédien, donc ben non, il lit selon l'humeur du moment. Voilà.
Et puis alors, c'est l'hésitation entre Blois et Goncourt, entre Odile Conseil et Jacques Jouet.
Ben oui, ce sont les deux
difficile.
Qui vous restent.
Oui. Eh bien, je vais dire Jacques Jouet.
Bon, bah écoutez, c'est votre droit.
Oui, mais
petit argument pour Jacques Jouet, s'il vous plaît, que ce ne soit pas par défaut.
À la première lecture, ça m'avait paru excellent, comme du bon Jacques Jouet.
Voilà, pourquoi vous avez massacré cette lecture, Patrice Delbourg ?
Je ne suis pas un comédien.
Et puis la citation, bon, il y a l'effet Goncourt, dont on va parler, mais dans la citation... Bon,
est faible ?
Oui, oui.
Bon, un Jacques Jouet, hein. Je ne sais pas comment Jacques Jouet prend ça, mais bon.
Je suis très embêté.
On ne va pas lui demander tout de suite. Gérard Mandia, pour vous. Alors, vous avez dit l'épingle et le bouton, c'est très Jules Renard.
Oui, mais il y a un troisième que je n'avais pas bien entendu, qui est le peigne. Et là, soudain, ça ne me paraît plus Jules Renard, parce que je vois mal Madame Vernet en train de peigner Monsieur Vernet. Autant je la vois en train de l'épingler et de le boutonner, je ne la vois pas en train de le peigner. Et donc,
pourquoi ?
Non, parce que le geste me paraît anachronique pour un couple bourgeois de cette époque.
Ah bon ?
Je ne vois pas. Non, monsieur Vernet éventuellement se peigne lui-même ou va chez le barbier, mais madame Vernet ne le peigne pas. Ça, c'est un peu... Alors, et ensuite, il y a les Goncourt. Mmh. Et là... Bon, là aussi, c'est compliqué parce que c'est vrai que j'hésitais entre Jacques Jouet et Patrice Delbourg, comme j'ai attribué Alphonse Allais à Patrice Delbourg.
Oui.
Disons Jacques Jouet.
Ah ben, comme Patrick Beignet,
oui,
finalement.
Avec d'autres arguments.
Exactement.
Mais... Oui, oui, exactement pareil. Oui,
vous êtes très complémentaires oui. au niveau des
et
arguments.
Je n'avais pas pensé au peigne.
Non. Alors, une dernière lecture. Je vous la livre. Monsieur Vernet se tient tellement droit que même assis, on le croirait debout sur ses jambes. Madame Vernet ne peut s'empêcher de s'orienter vers lui de tout son corps un peu guindé. Elle le surveille en l'admirant. Elle l'admire en veillant au grain. Il y a quelque chose à faire avec ces deux-là. Et la fin, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Il y avait une phrase utile quelque part chez le méchant Blois. Quand on veut berner un homme, ne pas le choisir parmi les trop crétins.
Oui, moi j'aime beaucoup le texte.
Gérard.
J'aime beaucoup le texte. Je trouve que c'est plein d'ironie, de drôlerie, et que ça a une sécheresse ironique que j'attribue directement à Jules Renard.
Voilà, et puis vous avez dit bas et Blois.
Oui, bas, oui, bas, ça.
Bas, j'ai pas bas, entendu le bas.
Bas.
Qu'est-ce que c'est ?
Bas.
Ah, le
je
bas.
Je ferai
ah,
mieux la prochaine fois. Ah, oui. Alors, pour vous, Patrick, bah, il reste.
J'ai pas le choix.
Non, vous n'avez pas le choix.
Il faut que ce soit Odile, oui.
Il faut que ce soit Odile. Alors, essayez de faire entrer l'hypothèse Odile dans ce texte. Ah, vous avez dit que le début était excellent.
Oui, bah, c'est pour ça que je pense tout de suite à Odile. C'est bien. Je n'ai pas fait les analyses stylistiques microscopiques dont Gérard s'est chargé, mais là, s'il fallait que quelque chose. M'étonne, c'est le « en veillant au grain ». Est-ce que Renard peut écrire ça? C'est très campagnard, le monde de Jules Renard, mais tout de même. Donc voilà, pour la justesse du regard.
Le choix de Blois, je
trouve que c'est la petite faille de ce texte, c'est ce défaut.
Ah oui.
J'imagine pas, à la dernière phrase d'un roman, en 1892, Jules Renard écrire ça. Mais bon, je me trompe probablement.
Bon, mais entre Odile Conseil et Jules Renard, on peut hésiter. Et là,
oui.
Bah, ce sera Odile Conseil. Ouais. Alors, je vais faire un résumé de la situation à partir des noms d'auteurs choisis par tous et par Jules Renard. Donc, premier texte lu par Jacques Jouy, il était question de calvitie précoce. Et il était question à la fin de Dumas fils. À cause de ce choix de Dumas fils, entre autres. Patrick Beignet, vous avez attribué ce texte à Jules Renard. Et vous, Gérard Mordillat, à Odile Conseil, à cause de la calvitie, je ne reviens pas sur vos arguments. Deuxième lectrice, Odile Conseil, le choix de l'auteur, là, c'était Alphonse Allais. Il était question de pignoufrie et de faire tandem. Patrick Beignet attribue cela à Patrice Delbourg, j'ai rarement dit à Patrice Delbourg, vous êtes d'accord, absolument. Plus l'idée de faire un bon mot qui est très delbourgienne. Troisième lecteur, Patrice Delbourg, avec un début excellent, et le choix du journal des Goncourt. Un choix qui vous a un peu perturbé, mais que vous attribuez tous les deux à Jacques Jouy, avec des arguments... disant que c'est excellent, surtout pour la première lecture de Patrice Delbourg. Il a eu un petit coup de mou sur la deuxième. Ben non, il a retrouvé sa profonde mélancolie, parce que Patrice Delbourg, c'est un mélancolique. Je me trompe ?
Je ne suis pas un acteur.
Et dernière lecture, je viens de vous la faire, avec un début excellent, le choix de Léon Blois. Alors ça, Patrick Beignet, un peu coincé, vous l'attribuez à Odile Conseil.
Moi, un peu coincé.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est le dernier nom qui vous restait.
Oui, et puis c'est pas Léon Blois, c'est le méchant Blois, il n'y a pas
oui,
le prénom.
Oui, on ne dit pas le prénom, on dit le méchant Blois, exact. Et pour Gérard Mordillat, à cause du bas, l'onomatopée, et de Blois, c'est justement du Jules Renard. Alors on va voir qui a en main le vrai texte de Jules Renard, je vous le demande.
Eh bien... Madame Vernet peigne son mari.
Ah,
je dois vous le dire.
C'est Patrice Delbourg qui l'a lu. Redites-nous ça.
C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On devine qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Mes chers amis,
il n'y croit toujours pas, je vais m'en dire.
C'est sûr que c'est une interpolation après la mort de Jules Renard par sa femme qui a rajouté ça. Ce n'est pas du tout le texte authentique.
Mes chers amis, Une dernière fois, merci et adieu. Il ne me reste plus qu'à me coller au dos cette étiquette trouvée dans le journal des Goncourt. ACD, un parasite qui a déjà servi.
Et donc, Jules Renard a bien cité le journal des Goncourt. Patrick Beignet, votre grande âme.
Ben, c'est encore une interpellation. Non, c'est vraiment de 92, le roman. Oui, j'étais surpris.
Mais le journal était publié par morceaux.
Oui,
il y a eu. Et puis, en plus, Jules Renard était très proche, était ami d'Edmond Goncourt. Je crois même qu'il faisait partie de la première académie Goncourt. Donc, il se fréquentait et il parlait du journal. Donc,
il avait les bonnes feuilles.
Oui, mais il me connaissait très bien, ce qui était paru.
Donc, vous avez zéro chacun.
Mais
alors,
joli.
Vous avez attribué ce texte avec des arguments plutôt valeureux à Jacques Jouy. Il est touché, Jacques Jouy, d'avoir été pris pour Jules Renard, part.
Oui,
puisque, puisque le texte de Jules Renard a été pris pour du Jacques Jouy.
Enfin, justice m'est rendue.
Bon, alors, 2-0, hein, mais c'est pas encore gravissime. On reprend les lectures dans l'ordre. Alors, le fameux Dumas-fils, Jacques Jouy.
N'était sa calvitie précoce, M. Vernet portait beau pour un homme de 45 ans. Il vivait dans le confort et l'oisiveté avec son épouse, qui l'entourait de recommandations et d'une sollicitude presque excessive. Elle se consolait ainsi de ne pas avoir eu d'enfant. Henri prit son bagage et se redressa vers ses hôtes. « Mes amis, je ne saurais mieux dire que Dumas-fils... Mon ventre aura pour vous une reconnaissance éternelle. J'ai profité de votre hospitalité plus que de raison. Il est temps pour moi de partir. » Il franchit la porte, sans un mot de plus, sans se retourner, pour que les Vernet ne voient pas son trouble.
Alors, je suis navrée, Patrick Beignet, parce que ce Dumas-fils vous a entraîné vers Jules Renard. On sait qu'il ne s'agit pas de Jules Renard. C'est un peu...
rien, hein.
Mais non, vous n'y pouvez rien.
Pas mort.
Ça fait juste 1-0. Et c'est un texte de qui, Jacques Jouy?
Alors, de Odile Conseil.
Ah, mais Gérard Mordillard, vous avez dit avec des arguments un peu troublants qu'il s'agissait bien d'Odile Conseil. Eh bien, vous marquez un point.
Très bien, voilà un joli point.
C'est un très joli point.
Avec des arguments capillotractés.
Exact, oui, oui. Ensuite, Odile, vous nous relisez le texte où il est question d'Alphonse Allais.
Vous le croirez si vous voulez, mais souvent, devant mes amis, au cours d'un repas, mon épouse n'hésite pas à proférer force bêtises à la cantonade pour me laisser le temps de réfléchir à un bon mot. La fin. Henri prit congé de notre tandem assez abruptement, son doigt pointé vers le ciel, en leur rappelant ce vieil adage d'Alphonse Allais, maître incontesté en pignoufrie. « Ah, l'éternel féminin !» disait le mari dont la femme n'en finissait pas de mourir.
Alors... grâce à Alphonse Allais, au tandem, à la pignoufrie, vous avez tous les deux voté, misé sur Patrice Delbourg, une grosse pièce, et vous avez...
gagné.
Voilà.
Ah, voilà.
Ah ben, il a du style, Patrice Delbourg, on le reconnaît.
Je suis bon camarade, surtout.
Vous n'avez pas vraiment essayé de faire du Jules Renard, dites-moi.
Non, ah non, mais pignouf, c'est un mot qui existe
oui,
depuis...
Pignouf, oui.
Belle lurette.
Pignouferie aussi, tu crois?
Oui, oui.
Pignouferie, c'est une petite liberté.
Oui, voilà, parce que vous auriez dit pignouf, il y avait ambiguïté plus, je pense.
Oh non, pignoufrie, ça doit être dans les, du Allais et du Renard.
Voilà, ben on va chercher. Si vous découvrez ce mot de pignoufrie chez Alphonse Allais ou et chez Jules Renard, vous nous écrivez, vous nous signalez où et à quelle ligne, s'il vous plaît. Alors, ben, un nouveau point pour Gérard Mandias. Le premier point de Patrick Beignet, on le salue. On est très contents pour lui.
À nous deux, ça fait 3 points, voilà. C'est déjà beaucoup.
Alors, on a déjà écouté le Jules Renard lu par Patrice Delbourg. Donc, je vous lis, moi, un texte qui a été pris pour du Jules Renard par Gérard Mordillat, pour de l'Odile Conseil par Patrick Beignet, et qui est de l'excellent Jacques Jouy, qui donc a été pris 2 fois, en quelque sorte, pour Jules Renard.
Absolument.
On le réécoute, puisque le vrai Jules Renard a été pris pour du Jacques Jouy. Moi, je vous ai lu et je vais vous relire du Jacques Jouy qui a été pris par vous pour du Jules Renard. Monsieur Vernet se tient tellement droit que même assis, on le croirait debout sur ses jambes. Madame Vernet ne peut s'empêcher de s'orienter vers lui de tout son corps un peu guindé. Elle le surveille en l'admirant. Elle l'admire en veillant au grain. Il y a quelque chose à faire avec ces deux-là. Et ensuite, à la fin, se bat. Je ferai mieux la prochaine fois. Il y avait une phrase utile quelque part chez le méchant Blois. Quand on veut berner un homme, ne pas le choisir parmi les trop crétins. C'est une très jolie phrase de Blois. Ça fait...
C'est dans Blois, effectivement.
Ça fait zéro chacun. Mmh. Alors, Jacques Jouet, impression ?
Bah, c'était... Je suis très content que... de voir que le texte authentique du journal est écrit au présent.
Oui.
C'est raconté au présent. J'ai eu cette intuition que ça pouvait être raconté au présent.
C'est pour ça qu'on vous a confondu tous les
et
deux.
C'est pour ça qu'effectivement, choisir entre les deux derniers textes, c'était difficile. Parce qu'ils avaient ça en commun.
Oui, ouais,
c'est pas très commun de faire un roman comme ça au présent, à ce moment-là.
Ah oui, c'est très moderne, vous diriez.
Bah, moderne, je sais pas, mais c'est pas banal, je pense.
C'est pas banal.
Oui, si, c'est moderne, c'est plus moderne. Les romans au présent, c'est venu avec la littérature anglo-saxonne, américaine surtout. Avant, on écrivait un imparfait passé simple, de préférence. Ouais. Non, mais là, on peut dire quand même, c'est admirable, parce que c'est vraiment...
magnifique.
Ah non, c'est vraiment du Jules Renard pur jus, parfait. Et d'ailleurs, ça devrait être ajouté aux œuvres complètes.
J'étais ravie, ouais. Jacques Jouet, de lire votre texte. Je le trouvais délicieux. Alors, on fait les comptes. Gérard Mordia est très fort sur Odile Conseil, très fort sur Patrice Delbourg. Ça fait 2 points, c'est la moyenne.
Ben voilà.
Alors Patrick Beignet, étrangement, est très fort sur Patrice Delbourg et uniquement sur lui, mais simplement aujourd'hui, parce qu'il lui arrive d'être si brillant à Patrick. Petit commentaire sur les pastiches, Jacques Vallée, sur les experts.
Il y avait quelque chose de remarquable, c'est de signaler Dumas fils, donc Odile a trouvé quelque chose de très juste. Par contre, un des pasticheurs... n'a pas écouté le pitch du tout, parce qu'il a parlé comme si le récit était raconté par le couple, mon épouse,
notre tandem.
Alors que c'était raconté par Henri, et j'ai bien précisé, c'était Henri qui racontait le... alors que là, c'est placé tout de suite sous le regard de...
Je sais pas qui a fait ça, il y a des gens qui n'écoutent pas.
Bon, voilà, donc c'était la seule petite remarque, mais c'était tellement remarquable. Et puis, la personne qui n'écoutait pas le pitch était quand même identifiable immédiatement.
Bah oui, mais donc, c'est notre Patrice Delbourg, c'est pas très grave. On l'aime comme ça. Et les experts, vous les avez trouvés. Je ne parle pas du bilan, je ne parle pas du nombre de points, ça c'est très anecdotique, mais des arguments.
C'est des gens qui connaissent très bien Jules Renard, et puis voilà. Mais ils ne sont pas tombés sur le vrai Jules Renard. Ce qui arrive, en connaissant très bien quelqu'un, on peut passer à côté.
Et ben voilà, c'est la tragédie de certaines vies d'ailleurs. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud, à podcaster sur franceculture.fr pendant 1 an, à réécouter autant qu'il vous plaira. On se retrouve dimanche à 12h50 pour des jeux papous à notre façon. Au revoir, passez un beau dimanche à l'écoute des programmes de France Culture.